Donc, on passe maintenant à Darline Alexis, donc, qui va nous parler de la littérature haïtienne contemporaine. Donc, Darline Alexis a fait ses études à l'École normale supérieure de Port-au-Prince d'abord. Ensuite, elle a été diplômée en littérature générale et comparée de l'Université des Antilles-Guyane et en didactique des langues à l'Université Lumière Lyon 2. Actuellement, elle enseigne à l'École normale supérieure et à l'Université Quisqueya Port-au-Prince, où elle occupe également la fonction de secrétaire générale. Elle est l'auteure d'un cours en ligne sur les littératures d'expression française de la Caraïbe, disponible sur la plateforme LitAfCar, donc Littérature Afrique-Caraïbe. Elle a co-dirigé avec Sabine Lamour et Denise Côté l'ouvrage Déjouer le silence, contre-discours sur les femmes haïtiennes, paru en 2018 à Montréal, en coédition à Remue Ménage et Mémoire d'Encrier. Donc, dans son intervention, la littérature haïtienne contemporaine, des ponts et des passerelles, Darline Alexis nous parlera de la production littéraire haïtienne depuis la chute de la dictature des Duvaliers, père et fils, en 1986. En effet, si les décennies 60 à 80, écrit-elle, ont été caractérisées par des contraintes en tout genre, la chute de la dictature a entraîné une circulation nouvelle de la parole et des personnes dans le pays. Cette dynamique sociétale, non sans soubresaut, souvent incompréhensible de l'extérieur, a vu l'éclosion de plusieurs générations d'écrivains sur la scène littéraire haïtienne, dont les œuvres sont publiées et étudiées dans les universités, aussi bien en Haïti qu'à l'étranger. Darline Alexis.
Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie Yannick Laëns de cette invitation à prendre part à ce colloque sur Haïti, littérature et civilisation. Et je remercie également les institutions qui ont permis ma participation à cette activité. Voilà. Alors, je vais changer un peu le format. Est-ce que vous vous rappelez de la première image de la présentation de Carlos Elius sur la création artistique? La présentation juste avant le repas. Vous vous rappelez de cette image-là? D'accord, bien. En 2010, Lionel Trouillot, et sous la direction de Louis-Philippe d'Alembert et de Lionel Trouillot, a été publiée une anthologie d'un genre très particulier. En règle générale, quand on achète une anthologie, on s'attend à trouver des tas d'extraits d'œuvres d'auteurs. Or, cette anthologie est composée pour deux tiers de réflexions des éditeurs eux-mêmes. Et ce sont des réflexions à partir des questions récurrentes que le public n'arrête pas de poser aux auteurs haïtiens. La question de la langue, pourquoi vous écrivez en français et pas en créole? Est-ce qu'il y a des maisons d'édition en Haïti? Est-ce que les livres se vendent en Haïti? Est-ce que les livres sont imprimés en Haïti? Donc, des questions qui reviennent tout le temps. Et donc, ces messieurs ont proposé cette anthologie pour pouvoir y répondre. Donc, il y a ce texte qui fait 90 pages, suivi d'un texte plus court de Yves Chemla, qui vous a fait la présentation de ce matin, la toute première sur la baie haïtienne, et après, un petit tiers dans lequel on retrouve quelques extraits d'œuvres d'auteurs contemporains. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une traversée littéraire d'un autre genre. Parce que je m'inspire de symboles comme le pont et la passerelle, tels que vous les avez vus dans l'image du tableau de Préfète Dufaux, dans la présentation de Carlos Elius. Donc, je m'inspire donc de ces symboles pour pouvoir vous balader à travers cette production contemporaine. Donc, ces symboles, comme je viens de vous le dire, se retrouvent en grand nombre dans les tableaux d'un grand peintre haïtien du nom de Préfète Dufaux. Des tableaux qui ont la particularité d'inspirer les critiques et les écrivains qui travaillent au décloisonnement des disciplines artistiques. C'est le cas, par exemple, de Maximilien Laroche, grande figure de la critique littéraire haïtienne, qui, dans un de ses textes titré « L'image comme écho sur un tableau de Préfète Dufaux », affirme, je cite, il affirme que le tableau de Préfète Dufaux, celui qu'il a analysé et celui que Carlos Elius vous a montré, fournit en quelque sorte la base d'une analyse de l'image haïtienne picturale ou littéraire. Une image haïtienne qui ne serait pas reflet, mais écho, image litote pour mieux dire, qui s'efforce de retrouver la pluralité de sens dans l'exiguïté des mots, nous dit Laroche. Alors, pour illustrer cette compréhension de l'image haïtienne picturale ou littéraire, eh bien, La Wash mobilise un des textes les plus connus de la littérature haïtienne et dont vous avez beaucoup entendu parler, que vous avez déjà peut-être certainement lu, « Gouverneur de la Rosée » de Jacques Roumain. Donc, il mobilise ce texte-là pour nous montrer comment cette œuvre est construite sur une dichotomie entre l'eau qui est mentionnée dans le titre, l'eau de la rosée, donc celle qui est donnée par la nature, qui vient d'en haut, en opposition à celle de la source, qui est au cœur de la quête des personnages du roman, Manuel et Anaïs. Donc une eau qui, elle, exige le travail et l'effort pour l'approvisionnement de la localité de Font-Rouge où ces personnages la vivent. L'œuvre picturale de Dufaux, c'est une longue suite de villes imaginaires caractérisées par de multiples voies qui en font des lieux interconnectés, interreliés par de grands ponts et des chemins modestes, étroits, inclinés ou escarpés qui rappellent que les passages existent, qui s'offrent disponibles pour la rencontre, fortuite, voulue et parfois inopportune. Les villes de Dufaux, c'est la relation à la manière des droits glissants. Elle raconte, elle relie, elle relaie par des traits, des formes, des volumes et des couleurs. Elle combine des tracés multiples pour des parcours qu'il revient à chacun de définir dans un monde qui se situe juste au cœur du mystère, de la beauté et de l'imagination souveraine. Le pont et la passerelle sont donc mobilisés comme métaphore du lien, de la rencontre, comme possibilité de transcendance des obstacles, pour la création de sens et comme rappel de l'appartenance multiple à des communautés d'êtres. Comme le dit Philoctète, de mon cœur à d'autres cœurs, de mes montagnes à d'autres montagnes. La problématique du lien est très présente dans la production haïtienne contemporaine. Plus soucieuse, me semble-t-il, qu'elle est de créer des mondes qui tentent de saisir la totalité, sans la figer, dans ces moments de solidarité, de solitude, avec la distance, les antagonismes de groupe, la volonté de rencontrer comme d'occulter l'autre dans le discours et dans l'agir. Le lien est dessiné dans ce qu'il permet de construire de positif, comme dans ses dimensions toxiques, dans ce qu'il permet de consolider, comme dans ses manifestations fragiles et bancales. Le choix de ces symboles est aussi un parti pris assumé, d'une inscription dans une compréhension du fait culturel haïtien en rupture, avec une certaine tendance qui consiste à lire la littérature haïtienne d'abord dans ce qu'elle nous montre des fragmentations de la société haïtienne, sans voir ou en ne s'intéressant que peu au fait qu'elle met pourtant bien en scène l'entêtement des personnages à construire du lien dans un environnement qui, à première vue, ne s'y prêterait pas. Cette traversée ne prétend pas à l'exhaustivité, le temps ne le permettrait pas, non plus la richesse et la diversité des acteurs et actrices qui sont à l'origine de cette littérature. Elle pose le contemporain en le situant historiquement vers les années 1990, donc les années qui ont suivi l'après-1986 et la chute de la dictature des Duvaliers, pour des raisons qui se justifient et dont il sera question dans cette présentation. Les limites inhérentes à ce découpage temporel sont connues et prises en compte. Donc, je me propose de considérer trois éléments qui font l'originalité de cette période au cours de la traversée proposée. Donc, une présentation, trois points. Je vous promets de ne pas tout lire. Donc, d'abord, la fin du paradigme dedans-dehors. Et ça, c'est un élément important. Vous prenez n'importe quel ouvrage sur la littérature haïtienne, on continue d'utiliser l'expression « dedans » dehors, pour faire référence à la production des auteurs qui vivent en Haïti et des auteurs qui vivent à l'extérieur, comme si ce paradigme-là, qui est une conséquence de la dictature, sur plus d'un quart de siècle de la dictature des Duvaliers, pouvait encore être opérant, même après la fin de la dictature, plus de 30 ans après la fin de la dictature. Le deuxième point porte sur la sortie de la Manche, de l'écriture des femmes, et le troisième sur l'évolution des rapports aux langues d'écriture. Et je vais essayer vraiment de résumer chaque point. Mais le premier, j'insiste, est beaucoup là-dessus. Donc, la fin du paradigme dedans, du dedans et du dehors. Le tournant dictatorial du pouvoir des Duvaliers a inscrit dans l'imaginaire haïtien de manière foncièrement différente la question de l'exil. Avant les Duvaliers, oui, on envoyait, les gouvernements envoyaient des Haïtiens en exil. Mais avec la dictature des Duvaliers, sa durée et la cruauté et les morts qui en ont découlé, donc la question de l'exil est devenue une problématique. Question qui constitue depuis un paradigme des études littéraires sur la littérature haïtienne. En effet, c'est une dictature qui a contraint à l'immigration des compatriotes issus de toutes les couches sociales du pays. Des cadres de l'administration, des professeurs et des agents de la culture se sont installés particulièrement en France, au Québec et aux États-Unis d'Amérique durant près de 3 décennies. Cette réalité inédite par son ampleur dans l'histoire nationale a donné naissance à la figure de l'exilé, à la diaspora haïtienne, parce qu'avant on ne parlait pas de diaspora haïtienne, et à une Haïti du dehors, qu'en créole nous nommons l'autre bord de l'eau, de l'autre côté, en référence à l'autre côté de l'océan. Alors, j'aime beaucoup l'expression Haïti du dehors, parce que c'est une expression qui est en écho avec un autre dehors, celui-ci aussi ancien que le pays lui-même, le pays en dehors, dont parle Gérard Barthélémy dans son essai sur l'univers rural haïtien. Le pays en dehors est une expression longtemps utilisée pour parler du monde rural délaissé par l'État haïtien dans sa gestion de la République. La littérature issue de ces communautés dites du dehors seront intégrées par la suite et qui seront intégrées par la suite dans le territoire haïtien en devenant le 11e département. D'abord, c'était le 10e quand Haïti avait un découpage en 9 départements. Et quand nous avons décidé d'inventer un 10e département, l'ENIP, eh bien, la diaspora est devenue le 11e département. Donc, pour dire que les limites géographiques d'Haïti ne s'arrêtent pas aux 27 500 km², mais englobent également sa diaspora, qui constitue donc un 11e département. Donc, cette littérature-là développe des thématiques autres en résonance avec la réalité que vivent les auteurs dans les espaces d'accueil. Par exemple, la question de l'assignation identitaire, le choc culturel, le racisme. Donc, les œuvres, Daniela Ferrière a beaucoup abordé ces questions-là. Donc, comment faire l'amour à un ex sans se fatiguer, je suis un écrivain japonais, tout ce qu'on ne te dira pas mon go plus récemment. Ils ont également abordé des sujets en rapport avec d'autres centres d'intérêt. Par exemple, Jean Métellus a écrit « Une eau forte, la parole prisonnière sur les troubles du langage ». Ou encore, cette littérature-là rend compte de la perte subie étant à s'inscrire dans la nostalgie et l'amertume. Toujours pour conserver Jean Métellus, on peut lire « La famille Vortex ». La chute de ce régime dictatorial en 1986 a favorisé avec les libertés reconquises de la libre expression et de la circulation des individus, un retour à une tradition d'échange entre les auteurs d'Haïti, leurs homologues états-uniens, latino-américains, donc vous vous rappelez certainement des années 40, 50, 60, les liens avec les auteurs, bon un peu plus tôt même, hein, les liens avec les auteurs de d'Harlem, de la Renaissance de Harlem, la négritude plurilingue, les congrès des artistes et écrivains noirs qui ont eu lieu en 1956 et 1959, présidés par Jean Price-Mars. La nouveauté, c'est que maintenant, les auteurs d'Haïti, donc de l'intérieur, devaient rétablir des contacts avec ceux qui avaient dû se réfugier à l'extérieur. Donc, la chute de ces barrières-là, établies par la dictature, n'est pas sans incidence sur la production littéraire de la fin des années 80 à nos jours. Les auteurs ne sont plus interdits de séjour dans leur pays natal. La liberté d'expression et de circulation n'est plus sous contrôle et des initiatives abondent. Alors, je vais prendre quelques exemples. Étonnant Voyageur, qui réunit quand même tous les auteurs de la diaspora et tous les auteurs d'autres pays et d'autres continents qui reconnaissent, qui ont de l'intérêt pour Haïti. La quinzaine du livre, les colloques auxquels prennent part les écrivains de la région Caraïbe et d'ailleurs, la création et la participation active d'Haïti dans des associations régionales telles que l'Association des écrivains de la Caraïbe, la présence d'écrivains qui s'intéressent aussi à Haïti, à son histoire, qui interviennent dans les cadres divers. Récemment, Yole Soyinka était en Haïti pour une tournée d'une bonne semaine. Et puis encore, toute cette littérature qui nous arrive d'ailleurs avec les coopérations d'enseignement dans le cadre que construisent les universités haïtiennes avec d'autres universités, d'autres institutions du monde. Du coup, la préoccupation de savoir où vivent les auteurs et où ils produisent leurs œuvres n'a plus du tout la valeur ni l'importance introduite par l'implantation d'une dictature sanguinaire sur près d'un quart de siècle. Je vous rappelle tout de même que beaucoup d'œuvres majeures de la littérature haïtienne, je prends des exemples qui ont déjà été cités ce matin, Stella, par exemple, d'Émeric Bergeot. Stella est une œuvre écrite par Bergeot à l'époque où il était en exil, dans les îles anglaises de Saint-Martin. Et c'est une œuvre posthume que son beau-frère, Beaubouin Ardouin, a fait publier. Il ne viendrait à l'esprit de personne de qualifier Émeric Bergeot et Stella d'auteur ou d'œuvre du dehors. Donc, pour dire que ce n'est pas une catégorisation qui a toujours existé et que ce n'est pas la réalité de l'exil non plus qui a créé cette catégorisation-là. C'est la dictature, le contexte de la dictature dans laquelle ces exils-là sont intervenus, leur durée et peut-être le fait que ce soit inscrit dans l'imaginaire que ce serait quelque chose d'éternel, tellement ça a semblé long à beaucoup de gens. Donc il a fallu créer une catégorie à part pour dire cette réalité-là. Bon, heureusement, on en a vu la fin, et donc cette catégorie-là n'a plus de raison d'être. Et dans le comportement même des auteurs, cela se voit. Donc, dans ce monde interconnecté, les déplacements des individus ne relèvent plus exclusivement de la nécessité de fuir un dictateur ou la précarité économique. Les politiques culturelles appliquées dans le monde global favorisent des formes d'interaction entre les artistes dans la réalisation de certains projets. Ainsi, se sont développées cette dernière décennie des résidences d'artistes. Alors, pour montrer comment il y a toute une production haïtienne qui a lieu ailleurs, des résidences d'artistes, vous savez tout ce que c'est un système d'accueil consistant à fournir à un artiste les conditions matérielles nécessaires pour créer une œuvre dont le projet est jugé prometteur par un jury. Alors, certaines des œuvres des artistes haïtiens les plus connus aujourd'hui, vivant en Haïti ou ailleurs, ont été produits en tout ou en partie dans ces cadres-là. Je vous cite quelques titres que vous pouvez vous procurer ici. L'ombre animale, par exemple, de Mackenzie Orfel, Belle merveille de James Noël et Avant que les ombres s'effacent de Louis-Philippe d'Alembert. En Haïti, des structures telles que le Centre Pen Haïti ou encore Passager des Vents à Port-Salut accueillent ou ont accueilli des artistes en résidence. Mais la question de la pérennisation de telles structures pose problème puisqu'elles ne reçoivent pas de financement public. Un autre élément à considérer, je vais rapidement sur ce point-là, c'est le poids des nouvelles technologies dans la création littéraire. Beaucoup de projets naissent avec des auteurs se trouvant à des milliers de kilomètres les uns des autres. Personne ne cherche à savoir s'ils sont en Haïti ou ailleurs. La technologie établit les ponts nécessaires entre les différentes communautés. Alors, je vous cite des exemples de quelques recueils collectifs dans lesquels ont participé des auteurs d'un peu partout. Par exemple, je cite celui paru chez Leg Édition, Des Hommes et des Ombres, sous la direction de Dieulerme et son petit frère, avec des textes de Yannick Lahens, de Stéphane Martelly, de Guy Régis Junior, Evelyne Trouillot, Rodney Saint-Éloi, Sybille Claude, Jean-Robert Léonidas, Franz Benjamin, Jean-Charles Watson, Marie-Josée Desvignes. Alors, ce recueil qui s'intéresse à la figure paternelle dans un pays où elle est souvent posée comme synonyme, donc ça s'intéresse à la figure paternelle. Donc, des hommes et des hommes posent, c'est une exploration de la figure paternelle que chaque auteur nous propose à sa façon. Stéphane Martelly, c'est un poème. Chez ces trois éditions, on peut lire aussi « La vie et ses couleurs », qui est un collectif dirigé par Lionel Trouillot, qui aborde la question des discriminations de couleurs, stigmates d'une société au passé colonial et esclavagiste, avec des textes, des auteurs évoluant aussi bien en Haïti qu'au Québec et ailleurs. quelques noms, Chantal Quinol, Rodolphe Mathurin, Émile Prophète, Rodney Saint-Éloi, Gary Victor ont contribué à ses œuvres. Mais l'un des recueils les plus emblématiques de cette tendance est peut-être un recueil qui a trois titres. C'est le même titre, mais dans trois langues différentes. Et donc, le titre en français, c'est « Ainsi parla la terre ». Donc, sur la couverture, vous verrez « Ainsi parla la terre »,« So spoke the earth » et « La terre parlait ». Et donc, ce collectif-là, réalisé sous la direction de Jessica Fièvre après le séisme dévastateur qui a secoué Haïti le 12 janvier 2010, c'est un recueil trilingue, anglais, français, créole, sans traduction. Vous achetez le recueil, vous avez les textes dans la langue de production, à vous de vous débrouiller. Bon, vous lisez peut-être tous les textes que vous pouvez lire en français ou en créole, et vous laissez les textes en anglais, ou vous lisez les textes en anglais. Mais c'est une tendance qui me semble extrêmement intéressante, parce qu'il n'y a pas eu ce souci de produire des traductions, parce que bon, le lectorat qui est visé, c'est un lectorat multiple, provenant d'espaces divers, et donc chaque lectorat aura accès au texte. Voilà, qui peut. Exactement. Et dans ce collectif, eh bien, vous avez des textes d'une cinquantaine d'auteurs, dont certains de grande renommée, tels qu'Edwidge Dantika, auteur que vous connaissez tous et toutes, auteur du Cri de l'oiseau rouge, sur le drame de la vérification de la virginité des filles, la récolte douce des larmes sur le massacre des Haïtiens en République dominicaine en 1937, le briseur de rosée autour de la dictature de Duvalier et bien d'autres œuvres encore. La troisième stratégie pour établir tous ces ponts et ces passerelles est d'une importance capitale, et je suppose également pour les auteurs qui font ce sacrifice-là. Beaucoup d'auteurs haïtiens publiés en France ou au Canada, mais qui ont conçu au préalable leur lectorat en Haïti, ne cèdent pas leurs droits d'auteur aux maisons d'édition. Ils conservent leurs droits d'auteur. J'espère que je dis techniquement bien les termes qu'il faut. Ils conservent leurs droits d'auteur, ce qui leur permet, certaines fois, de faire paraître ces ouvrages en Haïti bien avant qu'ils ne soient disponibles en France ou ailleurs. Et donc, ils travaillent à perte, parce que ces livres-là sont vendus à des prix préférentiels qui correspondent aux moyens du lectorat haïtien. Mais pas totalement à perte, parce que je suppose qu'un auteur veut que ces livres soient connus. En 2018, Evelyne Trouillot a réédité en Haïti « Rosalie l'infâme », qui a un récit fictif sur une communauté d'esclaves à Saint-Domingue, mais particulièrement l'histoire d'une esclave qui s'est illustrée dans l'assassinat des bébés nouveau-nés pour les soustraire à l'esclavage, un texte magnifique et à lire absolument. Eh bien, ce texte-là rencontre que maintenant son lectorat en Haïti. Parce que le livre coûte un prix dérisoire, abordable, et donc les professeurs peuvent le proposer aux étudiants à l'université. Je termine sur ce point-là en soulignant l'importance des anthologies réalisées durant cette dernière décennie, particulièrement sur la poésie haïtienne, et des anthologies qui embrassent de longues périodes de temps. Et celui-ci sur un siècle de poésie, donc c'est un siècle, mais il y en a d'autres qui embrassent toutes les 215 ans d'histoire d'Haïti. Donc, s'y retrouvent les auteurs retenus par les éditeurs sans distinction aucune par rapport à leur lieu de vie quotidien. La sortie de ce paradigme du dedans et du dehors n'est pas sans conséquence sur les œuvres et la conception de l'espace, dans la fiction en particulier. Si les récits de ces trois dernières décennies se déroulent en grande partie dans des espaces urbains, le monde rural réapparaît de temps à autre, me semble-t-il, sans les avatars du roman paysan. Les romanciers ne l'abordent plus sous le mode ethnographique qui caractérise ce genre. On n'y retrouve pas non plus l'optimisme du réalisme merveilleux à la manière de Jacques-Stéphane Alexis. Et bon, par exemple, je prends un exemple dans La Maison du Père de Yannick Laëns, où les personnages passent de leur quartier petit bourgeois à Port-au-Prince, à des vacances dans la ville de Gonaïve, d'où est originaire le père de famille, présenté dans l'œuvre, ou encore le Yann Valou pour Charlie de Lionel Trouillot, où ce personnage-là, qui a laissé son village avec l'intention de ne plus revenir, eh bien, à un moment donné de sa vie, eh bien, il a besoin de faire ce retour-là. Donc, les gens circulent dans des espaces différents, y compris l'espace rural, mais sans l'espace rural décrit sans les stéréotypes habituels. Je ne vais pas vous lire cette partie-là. Je passe directement au second point parce que... Oui, rapidement. Et pour la sortie de la manche de l'écriture féminine. Alors, l'idée, c'est que je pense que la forte présence des femmes dans le paysage littéraire haïtien contemporain relève de la même logique de l'invalidation du paradigme du dedans et du dehors. Et longtemps, l'écriture des femmes a été perçue comme relevant de la marge de la littérature, qui est essentiellement une affaire d'hommes. L'écriture des femmes a longtemps été comprise comme un passe-temps, un lieu de récréation, en marge de leur responsabilité première. Et la raison à ça, bien, c'est leur rôle, c'est de consacrer aux soins de la famille, hein, s'occuper des enfants. Et donc, très souvent, les femmes ont écrit avant d'être mariées, d'avoir des enfants, avant d'avoir des enfants, et après, quand les enfants sont suffisamment grands pour partir, etc. Donc, je pense qu'il y a eu ça, qu'il y a eu cette invalidation-là également du dedans et du dehors, une écriture de la marge. Je pense que les femmes se sont positionnées de façon telle qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la littérature contemporaine haïtienne, eh bien, les noms qui nous viennent très rapidement à l'esprit sont des noms de femmes. On n'a pas à chercher. C'est beaucoup de noms de femmes. Parmi les romancières, plus que parmi les poétesses, quand même. Parmi les poétesses, les hommes sont encore un bien plus grand nombre. Donc, c'est l'idée qui est développée, que vous lirez dans les actes du colloque. Mais la question de la langue, qui est le dernier point. Là encore, rapidement, hein, juste pour vous montrer comment on crée des dichotomies. En 1931, un auteur influencé certainement par les mouvances de la négritude, Léon Lalo, écrit un poème titré « Trahison ». Un poème qui devait être mis en musique d'ailleurs, parce que ça s'appelle « Musique nègre ». Et dans ce poème-là, il a quelques vers qui a conditionné depuis lors tous les discours sur la place des langues dans la littérature haïtienne. Alors je vous dis ces vers. « D'Europe, sentez-vous cette souffrance et ce désespoir à nul autre égal ? D'apprivoiser avec des mots de France ce cœur qui m'est venu du Sénégal. » Alors, moi, je réfléchis un peu à cette question. Je ne comprends toujours pas comment, depuis tout ce temps, la critique, moi-même y compris, dans mes premières productions, ait pu utiliser ces vers pour parler de la situation de diglossie qui existe en Haïti entre le créole et le français. Parce qu'à aucun moment, il ne fait référence au créole, non plus au français. Parce que ce cœur-là lui est venu du Sénégal. On ne parle pas créole au Sénégal. Ah vrai? Donc, le cœur lui est venu du Sénégal. Donc, il ne faisait certainement pas référence à cette difficulté à s'exprimer en français au lieu de s'exprimer en créole. Mais c'est la lecture qui a été construite depuis tout ce temps à partir de ces vers-là. Donc, là encore, vous voyez, il y a une construction autour de l'intériorité liée au cœur, l'extériorité, qui est la parole qui est verbalisée, et donc qui nous ramène, encore une fois, au paradigme du dehors et du dedans. Donc, où le français serait la langue du dedans, puisque c'est la langue principe, non, le créole serait la langue du dedans, et le français, la langue du dehors, et donc il serait dans ce déchirement-là, par rapport à une envie peut-être de dire spécifiquement créole, alors que je pense qu'il faut quand même revenir sur ce texte de Léon Lalo pour recadrer un peu les choses. Bon, heureusement, les auteurs aujourd'hui, quand ils parlent des langues, ils en parlent dans d'autres termes. Je crois qu'ils ont un rapport beaucoup plus apaisé. Ils sont inscrits beaucoup plus. Les auteurs qui écrivent essentiellement créole font le choix d'écrire essentiellement en créole parce qu'ils sont plus à l'aise dedans, parce qu'ils pensent que ce qu'ils doivent dire ressortira beaucoup mieux en créole. Ceux qui veulent le faire en français le font. Et il y en a qui jouent sur les deux, parce que quand vous écrivez en français, vous avez un plus grand lectorat, et je pense que les auteurs ont des idées qu'ils veulent faire passer au plus grand nombre, et que le français, pour le moment, leur offre cette possibilité-là. Le créole, dans le futur, le pourra aussi, mais il y a encore quelques travaux à faire. Voilà. Merci.
Merci beaucoup, Darlene Alexis, pour cette belle traversée de la littérature haïtienne contemporaine. Donc, on est pile dans les temps. Il est 16h15. Et donc, malheureusement, il n'y aura pas de questions, j'imagine, parce qu'on en a quand même quelques-unes. Tant mieux. Donc, j'ai oublié de vous dire une chose avant de commencer ce panel, c'est d'éteindre vos portables, s'il vous plaît, vos téléphones portables, parce que je travaille pour ceux qui viendront après nous tout à l'heure. Donc, voilà, et on prend deux ou trois questions dans la salle.